Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. On est toujours très heureux de passer les samedis et dimanches matin en votre compagnie avec ce matin Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Marc Madiot, Sarah Pitkowski. Nous avons encore beaucoup de choses à vous raconter avant de parler de cyclisme et de Tadej Pogacar. On va faire un point sur notre fil rouge de la journée. Vous le savez, en ce moment, ce sont les mondiaux de judo à Budapest. On retrouve Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Des mondiaux de judo qui n'ont pas forcément très bien débuté pour notre équipe de France. Ça a été une sale journée hier.
Oui, pour l'instant, le compteur est bloqué à une médaille. Le premier jour, l'argent pour Romain Valadier-Picard en moins de 60 kilos. On pouvait espérer mieux hier avec deux moins de 66 kilos, Daiki Bouba et Walid Carr. Et la moins de 52 kilos, Amandine Bouchard, zéro médaille hier. Le meilleur résultat, c'est Walid Carr, cinquième. Mais Amandine Bouchard est tombée sur un os en huitième de finale, la meilleure de la catégorie, Uta Abe, la japonaise, quadruple championne du monde et championne olympique en 2021 à Tokyo. Mais Bouchard a été la seule à la challenger sur cette journée, la seule à la pousser en prolongation, sinon c'était 2 minutes de moyenne en combat pour Uta Abe. Mais ça n'est pas passé pour la Française qui perd en huitième de finale. Elle était relativement positive malgré cette défaite face à la Japonaise, Amandine Bouchard.
C'est chiant, c'est dommage, c'est triste parce que ça c'est une finale mondiale. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de compète, elle n'était pas de tête de série. Bon, le tirage a fait que je la prenne dans les premiers tours. Bon, tout le monde connaît Abe, c'est la meilleure de la KT, on part en Golden. Au final, elle me met en déséquilibre, mais je ne me sens pas vraiment en danger parce que je suis un peu un chat, donc ça va. Il y a eu des fois où je me suis sentie plus en danger sur d'autres rencontres qu'on avait eues toutes les deux. Je vais continuer de progresser et on va aller la sortir, cette japonaise. Mais je suis moins déçue que d'autres championnats du monde.
Bon, on espère que ça va aller mieux pour notre équipe de France. Il y a des chances aujourd'hui, Morgane ?
Oui, des chances. 3 chances de médaille aujourd'hui en moins de 57 kilos. Peut-être la meilleure, Sarah Léonie Cizik, double médaillée olympique en individuel. Pas encore de médaille mondiale. C'est l'une des favorites. Avec elle, l'Orléanaise de 22 ans, Marta Fawaz, 3e du dernier championnat d'Europe. Et chez les hommes, un représentant, moins de 73 kilos. Le vice-champion olympique et 3e du dernier Euro, Joanne Benjamin Gaba. Mais son tableau des moins de 73 kilos, c'est une véritable jungle.
Merci beaucoup, Morgane Maury, en direct de Budapest pour ces mondiaux de judo. Évidemment, on suivra ça toute la journée. On est avec toi et on espère quelques médailles pour la délégation tricolore. On va parler de cyclisme dans quelques instants, mais GG, vous le savez, à 10h45, vous prenez les commandes de cette émission en nous proposant un débat. C'est maintenant qu'il faut nous le vendre, c'est maintenant qu'il faut être sexy. Ok ? Pascal Duprat, tu veux parler de quoi ?
Ben moi, j'aimerais parler de Pogba qui va peut-être faire ses débuts en Ligue 1 à Monaco. Il est pressenti. J'aimerais débattre avec vous et savoir si Pogba pourrait renaître de ses cendres en débutant en Ligue 1, voilà, après sa suspension et ses nombreuses blessures.
Mais évidemment, ça a été l'une des informations mercato de cette fin de semaine avec Paul Pogba qui pourrait donc revenir en Ligue 1 et signer à l'AS Monaco. Marc Madiot, tu nous proposes quoi ce matin?
Alors moi, je vous propose un débat pour mettre en évidence le télescopage des calendriers en sport auto qui nous prive de la participation des meilleurs pilotes du monde et notamment des pilotes de Formule 1 des 24 heures du monde. Parce que, imaginez, il y a un duel Ferrari, Porsche et d'autres grandes écuries sur ces 24 heures du monde. Imaginez que les voitures soient pilotées par les grands noms de la F1,
les Verstappen, les Hamilton,
Verstappen,
c'est ça,
les Leclerc et autres qui souhaitent et qui ont envie de participer au Mans. C'est un vrai.
Ils le font parfois après leur carrière, à la fin
ils
de leur carrière.
Ils le font à la fin de la carrière, oui. Il y a Button qui est là, il y en a
on veut l'apogée.
Mais on voudrait les avoir en même temps et c'est possible. C'est déjà arrivé, c'est possible. On pourrait le faire en aménageant le calendrier.
Ok, c'est ta proposition. Merci Marc. Sarah Pitkowski. Bah,
je sais que vous attendez cette information puisque enfin, ça y est.
On va congeler les ovocytes, c'est ça?
Non, les jeux améliorés. Tu sais, ceux que tu avais poussé, la LNC Game, là. Et ben ça, il y en a la date. Ce sera du 23 au 25 mai 2026 et à Las Vegas, hein, la ville de tout ce qui est possible.
Ça va durer 3 jours.
Ça va durer trois jours.
Ça va.
Bah, tu sais, comme ils sont dopés, tout va aller plus vite. Tout va aller plus vite.
On sera aussi plus vite.
Est-ce que tout est à jeter dans ces jeux du cirque? En tout cas, les coachs, Et les athlètes, en tout cas, mais aujourd'hui, s'affichent.
On connaît les disciplines.
Oui, 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 je peux te les donner.
La natation, l'athlétisme et l'haltérophilie.
Nous, je note au passage que le vélo n'y est pas.
Non.
Bah oui, mais vous avez toujours été exempt de ce reproche.
Bien
vélo,
sûr.
Mais vous avez de l'avance sur.
Merci Sarah pour les
Sarah, la prochaine fois que tu laisses en Tour de France.
Ça, c'est un tac à la gorge magnifique. Bravo Sarah. Christophe.
Moi, je voulais vous parler d'un petit gars qui marche pas mal. Il s'appelle Isaac Hadjar. C'est vraiment la révélation de la Formule 1 cette saison. Il est français. Il est si fort que chez Red Bull, on aimerait bien le recruter, mais que le mec, il a pas du tout envie d'y aller, en fait. Il dit, oh, je me sens pas prêt. Franchement, je m'éclate dans cette voiture. Et en fait, il a pas du tout envie d'aller se frotter à Verstappen et aller se frotter à la Red Bull, qui est une voiture catastrophique, qui a été construite uniquement pour Verstappen. Alors, est-ce un manque d'ambition ou est-ce qu'il a bien raison de refuser ça? Votez pour moi et je vous dis tout.
Quatre très bons débats. Bravo, mais GG, vous allez sur le compte X des grandes gueules du sport, évidemment. On en parle à 10h45 dans 30 minutes maintenant. Proverbe coréen pour débuter ce nouveau débat, ne dégaine pas une épée pour tuer un moustique.
RMC, le bras de fer GG.
Tu bluffes, Martini. Il bluffe.
Pas sûr.
Dans la côte de Witikon, eh bien, Tadej Pogacar a décidé de secouer le cocotier et de faire peur à 100 km déjà, à peine, je veux dire, de l'arrivée à toute la concurrence.
Si, il bluffe, là, ça se voit tout de suite.
On est à 86 km de l'arrivée et Pogacar est en tête de la course, tout simplement.
T'as peur de bluffer, là, quand même. Si, il bluffe, là.
Nous avons désormais 17 hommes qui sont en tête avec Pogacar légèrement détaché, mais qui est en train de se faire reprendre.
Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
Tadej Pogacar qui effectivement a fait exploser le reste de l'échappée.
Peut-être qu'il bluffe, hein, peut-être qu'il avait qu'une seule balle.
Il se met la main devant la bouche, le coude sur le genou, d'un air de dire je n'en reviens pas. Quelle journée pour Tadej Pogacar. Il a éparpillé la concurrence à 100 km de l'arrivée et au terme d'une échappée en solitaire de 51 km, il est sacré.
Il n'y a pas beaucoup de courses qui résistent à Tadej Pogacar.
C'est 25 victoires en 54 jours de course.
Eh non, il démarre, démarre. Tadej Pogacar, c'est un killer, c'est un tueur. Tadej Pogacar, le maillot jaune, il va aller s'imposer sans problème pour Tadej Pogacar.
Je vais voter, il ne bluffe pas.
Ben oui, il a dit 5, 4, 3, 2, 1 et paf, pastèque. La foudre a frappé deux fois sur le critérium du Dauphiné, une première fois vendredi, une deuxième fois hier, pour à chaque fois le même résultat. Tadej Pogacar a attaqué à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Jonas Vingegaard a craqué. Ce matin, le Slovène compte une minute d'avance sur son rival avant la dernière étape. Pogacar a-t-il déjà tué le suspense du Tour de France 2025? Dans le coin gauche, la team Oui, représentée par Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux et, à ma grande surprise, Marc Madiot. Dans le coin droit, vous l'aurez compris, il est seul, mais ça ne l'a jamais embêté. La team non, représentée par Pascal Duprat. Sachez qu'il y a une large majorité. On vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. Pour vous, est-ce qu'il a tué le suspense? C'est oui à 75%. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial sur les routes du Dauphiné, Maria Azé. Bonjour Maria.
Salut JC, salut tout le monde.
C'est vrai que Poggi a encore écœuré tout le monde.
Ouais, parce que pourtant en début de semaine, on n'avait pas du tout le même discours, notamment après le contre-la-montre où il se retrouve 8e au classement général. Alors évidemment, ça ne lui a pas plu, on commence à le connaître, notre Slovène. Et il a remis les pendules à l'heure dès la première étape de montagne, vendredi, où il met 43 secondes au général à Jonas Vingegaard et plus d'une minute 20 à Evenepoel. Hier, c'était l'étape reine de ce critérium du Dauphiné avec l'enchaînement des cols de la Madeleine, col de la Croix-de-Fer et la montée à Valmeignier. Pogacar repart à l'attaque et Vingegaard a du mal à suivre, ce qui forcément a plu au champion du monde qui était venu un peu pour se tester.
Je ne sais pas si ça le touche mentalement, mais bien sûr que c'est un bonus pour moi de gagner ce genre d'étape très dure avec de grosses ascensions. C'est une grande motivation pour le Tour.
Vingegaard, lui, est loin d'être ridicule. Hier, il est toujours resté à plus ou moins 20 secondes de son rival. Ce qui est marquant, c'est qu'à l'arrivée, le Danois, lui, est vraiment au bout de ses forces, tandis que le Slovène raconte qu'il a terminé plutôt tranquille. Mais quand les journalistes évoquent un tour déjà acté, Vingegaard veut continuer à y croire.
J'espère que cette course va m'aider à être meilleur, pour que je sois encore plus fort sur le tour que maintenant. Poggi était très fort sur les deux dernières étapes, il méritait de gagner ces deux jours, donc félicitations à lui.
Ce qui pose question, c'est que la Visma, équipe de Vingegaard, est bien plus fournie pour la montagne que la team UAE de Pogacar sur ce Dauphiné, preuve que le Slovène est tout simplement au-dessus, mais il s'agace déjà quand on lui demande si le tour est déjà joué.
Je ne pense pas que le tour soit joué. Je signerai tout de suite pour que ça soit facile, mais rien n'est simple dans le cyclisme. Le Dauphiné ne révèle pas tout. Le tour, c'est différent, c'est 3 semaines. Là, c'était une préparation, donc attendons de voir ce qu'il se passe sur le tour.
Dernière étape aujourd'hui avec une difficulté et la montée jusqu'au Mont-Cenis. On voit mal ce qui pourrait empêcher Pogacar d'aller chercher son premier Dauphiné et en prime sa 100e victoire en carrière s'il venait à remporter l'étape.
Merci Maria Azé pour ces précisions. Pogacar a-t-il déjà tué le suspense du Tour de France 2025? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. On va commencer par le camp du non, parce que Pascal, t'es tout seul, mais surtout t'es derrière, oui. 25%. Pourquoi non?
Ben parce que j'ai envie de ménager le suspense, surtout, et j'ai envie de trouver des raisons de regarder le Tour de France. Voilà, à partir de juillet, j'ai envie que comme d'habitude, ça soit pas couru d'avance. C'est pour ça que j'ai répondu non, parce que ça me gonfle tout simplement qu'il soit au-dessus du lot à ce point-là, même si c'est un grand champion, je le concède. Ben, j'espère que le Tour de France va ménager le suspense, j'espère que Vingegaard va être un peu meilleur qu'il ne l'est sur le Dauphiné, j'espère qu'il y va y avoir de quoi s'enthousiasmer, parce mais que tu, si, Pascal, si alors que le Tour n'a pas commencé, j'y crois, mais la méthode Coué, c'est important.
J'aimerais bien te suivre moi sur un trou.
Eh ben alors pourquoi? Ben commence par voter comme moi alors.
Mais je vote pour
parce que voilà, moi je me mets à la place de
tu vois, c'est du vent Pascal, c'est,
je
c'est
crois
bien
que j'ai
bon, mais à un moment
non, mais je me mets à la place
pour voter.
Je me mets à la place de Gaudu par exemple, quand j'ai mon manager qui dit que c'est couru d'avance. Ben moi si je suis à la place de Gaudu, je fais pas le Tour de France. Je reste à la maison alors.
C'est ça, mais
vous voyez, c'est ça qui me c'est ça qui me ça me fait dresser le poil. Comme si
il y a d'autres enjeux dans le Tour de France que le Tour.
Écoutez-moi, laissez-moi terminer mon argumentation. 2023,
il y a pas grand-chose 2020, dans l'argumentation, hein, je te signale.
2023, mais parce que tu me coupes la parole tout simplement. 2023 parce que tu as peur. 2023, Pogacar, c'est lui qui est blessé. OK. 2024, c'est Vingegaard. Bah cette fois-ci, ils sont tous les deux peut-être à des états de forme différents, mais ils sont en pleine santé. Donc ça devrait être un duel. Et arbitré par Evenepoel, qui n'est pas un tocard quand même. Donc je me dis, Pogacar, ce qui lui est arrivé sur le contre-la-montre pendant le Dauphiné, ça peut peut-être lui arriver aussi pendant le Tour de France. Ça va être Visma contre UAE. Peut-être que Visma est meilleur sur les étapes longues, même si hier, ils ont prouvé le contraire. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est que le Tour va être passionnant, tout simplement. Okay. Et je ne peux pas entendre qu'avant même qu'il ait commencé, ça soit déjà joué. Non, je peux pas l'entendre. Mais je me rappelle de toi, Christophe, quand on parlait. Pardon, je termine là-dessus. Quand on parlait, des classiques. Tu nous disais, il va tout gagner. Je suis désolé, il a pas tout gagné. Il en a gagné beaucoup, mais il a pas tout gagné. Donc tu t'es trompé. Tu vas peut-être te tromper pour le Tour de France.
Si. Non.
La première fois sur le Paris Roubaix, il va gagner.
Réécoute les bandes.
Il y a eu un virage, il y a eu un talus. Heureusement, c'est la glorieuse incertitude du sport. Il s'est pris le talus et il a perdu.
Bah oui,
Marc.
Ben, moi, je suis réaliste. Je regarde la situation, je regarde le niveau de compétitivité, je regarde les écarts. Dans le Tour, il y a plusieurs courses. Alors, quand tu dis tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu vas dire à tes coureurs si avant de commencer, tu penses que... Mais tu sais, dans le peloton, tous les coureurs sont réalistes. Parce que on est dans du 1 contre 1 et on sait, on perçoit, on capte le niveau de compétitivité de la concurrence et après on essaie de situer et d'élaborer sa propre stratégie et ses propres objectifs par rapport à nos propres moyens. Et il est clair que si on regarde objectivement la situation du prochain Tour de France qui s'annonce, y a pas photo. Il n'y a pas photo, mais après, la course reste la course, c'est 3 semaines de compétition, les aléas de la course peuvent provoquer des situations qu'on n'imagine pas aujourd'hui, mais si on est réaliste et objectif par rapport aux données qui nous sont proposées de part et d'autre, il n'y a pas match. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il n'y a pas match. Maintenant,
mais il est à ce point au-dessus du lot, sa préparation est à ce point exceptionnelle que c'est un extraterrestre, donc. Nous avons affaire à un extraterrestre.
Il y a lui et les autres. Pourtant, oui, aujourd'hui, il y a lui et les autres. Maintenant, la course n'étant pas encore disputée, il va forcément se passer beaucoup de choses. Et encore une fois, on n'est pas dans un affrontement chronométrique où chacun développe sa propre course sans avoir les interférences de la concurrence. Là, on est dans un peloton de 170 coureurs où il y a forcément des interférences qui vont intervenir. Le climat, les conditions de course, le parcours.
Donc, c'est pas joué d'avance.
C'est pas joué d'avance, mais si on
tu m'as rejoint. Non, merci Marc.
Attends, non, je te rejoins sans te comment dire, sans
m'approuver.
Totalement dans ta logique.
Mais aussi,
t'as la froideur de l'expert en fait.
Parce que réalisme. J'ai aussi la sensation, Christophe, que on le sait, Vingegaard, il ne court que ça. C'est-à-dire qu'il s'est préparé en attitude pour ne courir que ça. Lui, il doit arriver au top de sa forme dans 3 semaines, pas avant. C'est-à-dire que Pogacar, c'est vrai qu'il court.
Il y a un petit souci là, et que je pense quand même qu'au départ de ce Dauphiné, il pensait être beaucoup plus près.
Il avait fait des annonces à lui. Silence, c'est pour ça que on rêvait tous avant le départ de ce Dauphiné d'une bagarre de tous les instants. Moi, je suis hyper déçu par ce Dauphiné en fait. Je m'en faisais une joie, je me disais que les trois fantastiques étaient à un niveau, et mercredi dernier après le contre-la-montre, je me disais mais ça va être génial, ça va être un feu d'artifice tout l'été. Et la première étape de montagne, on est revenu dans le schéma traditionnel,
c'est-à-dire
Pogacar, mais une attaque, il lâche tout le monde.
Evenepoel
est au fond de la classe. Et Vingegaard n'arrive même pas à s'accrocher à la route Pogacar sur 50 mètres ou 100 mètres.
On ne peut pas imaginer que Vingegaard se prépare.
Même les années précédentes,
je pense qu'il s'est préparé, mais il pensait être plus près que ça. Qu'à la limite, Pogacar batte Vingegaard et le dépose dans les deux derniers kilomètres des ascensions. J'ai envie de te dire, on est proche l'un de l'autre, ça se joue sur pas grand-chose. Mais là, c'est sur une attaque, sur quelques centaines de mètres, qu'on sait que le match est plié.
Alors, je reformule ma question, Marc.
C'est ça qui est compliqué aujourd'hui à vivre.
Moi, je m'adresse à l'expert, ça m'importe. Attention, Christophe est un expert aussi de vélo. Hein. Mais Marc, est-ce que... Je veux simplement savoir, pour ma connaissance personnelle, est-ce que le Dauphiné libéré ne peut pas peaufiner une préparation?
Mais il peaufine la préparation de tout le monde. Vingegaard et Pogacar sont ici, sur ce Dauphiné, pour peaufiner leurs conditions et leur approche du Tour, le fonctionnement de leur équipe, leur propre évolution. Et on a vu d'ailleurs, il y a eu un mini raté de Pogacar sur le chrono. On a tout de suite pensé que... Ben non, on a mal pensé. Donc, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il a une telle emprise. Là, franchement, je pense que les étapes de montagne du Dauphiné vont laisser des traces mentales chez Vingegaard. Et encore plus, chez Evenepoel. Mais pour moi, Evenepoel, c'est déjà, depuis l'année dernière, au Tour de Lombardie, moi, j'avais observé l'arrivée. Evenepoel termine deuxième du Lombardie. Il s'était pris une minute dans les dents en 10 kilomètres sur le plat dans le final du Tour de Lombardie. Alors qu'il était dans sa spécialité, il était en position aéro, il a passé la ligne d'arrivée. Et moi, j'ai encore en moi l'image d'Evenepoel. Et je me dis, mais là, à l'instant T, il est en train de comprendre que tant que Pogacar sera là, il ne gagnera pas le tour. Et je pense qu'on est ce qui se passe, les attitudes d'Evenepoel qu'on a aujourd'hui sur le Dauphiné, me conforte malheureusement dans cet avis.
Et moi, dernière chose à ajouter, je pense que en fait, je m'en faisais une joie, mais c'est une connerie de mettre les trois principaux favoris du Tour de France dans le Dauphiné tous ensemble. Parce qu'au mois avant, on avait les suspens jusqu'au début du Tour de France, jusqu'à la première étape de montagne. Là, on est un mois avant le départ et on a déjà plus de suspens.
Alors c'est fou.
Donc,
parce que
non, il faut pas tous les engager au Dauphiné. Il faut en prendre qu'un autre sur le Tour de Suisse.
Alors
un autre.
La course reste la course. Hein.
Mais si je me trompe. La semaine dernière, je vous ai posé cette question, Marc, t'étais avec nous.
J'ai demandé si
le Dauphiné allait changer beaucoup de choses dans l'optique du Tour de France. Tout le monde me dit
mais franchement, moi, je pensais que Vingegaard serait plus près.
Bah, moi aussi. Oui. Moi aussi. En fait, la grosse déception, c'est Vingegaard.
Oui. Il n'est pas décevant.
Non.
Lui, il n'est pas décevant. Le problème, c'est que décevant parce que son niveau est déjà très bon.
Le problème, c'est que Pogacar, il est toujours en forme.
Mais il est
même quand ça fait trois.
il est au-dessus.
Bah oui, mais
c'est au-dessus.
C'est un peu énervant quand t'aimes le tour.
Je voudrais vous amener sur un terrain. Alors, je vais pas rentrer dans le débat de spécialistes, mais je voudrais juste reprendre. Je voudrais juste reprendre une petite phrase de Pogacar qui dit au début du tour, au début du Dauphiné. Et donc, quand on voit les résultats du Dauphiné, ça me porte à une grande inquiétude pour le Tour de France. Il dit qu'il est coincé dans la grande boucle. C'est trop étroit. Il dit, et ça explique son calendrier de cette année. Il dit, je veux juste vivre de nouvelles expériences, ne pas m'ennuyer en faisant toujours la même chose. Et donc, ça résume quand même sa forme, lui, sa lassitude sur le Tour de France. Alors, la question est de se dire que quand on voit Pogacar qui finalement s'ennuie sur le Tour de France. Donc, pour éviter son ennui sur le Tour de France, s'est fait un calendrier de course pour essayer de trouver un peu d'enthousiasme à tout ça. Je me dis, mais en fait, lui est en train de tuer le Tour de France, pas parce qu'il a sa performance, mais il est en train de rendre le Tour trop ennuyeux. Et je me dis, mais donc, en fait, les coureurs aujourd'hui, est-ce qu'ils vont, ça va pas changer une vision, une préparation, et de se dire que il vaut mieux être multicarte que juste d'être sur un grand tour.
Mais ça, tu choisis pas.
Et d'avoir cette lassitude. Et ma question, elle est là, et c'est de dire, mais en fait, lui tout seul, il est en train de remettre en question l'étroitesse des grands tours.
Mais tu choisis pas parce que
qu'il est capable d'être bon partout.
Mais lui, il est exceptionnel, il est bon sur tous les terrains. Un coureur comme Vingegaard ne peut pas jouer sur le même registre. Moi, il y a quand même deux trois petites choses que j'ai notées. Avant le départ de Dauphiné, en suivant l'actualité du sport en général, j'ai aperçu Pogacar au Grand Prix de Monaco de Formule 1. Je l'ai aperçu dans les espaces vifs à Monte-Carlo. Là, hier, par exemple, je l'ai vu dans l'étape, avec son maillot de leader sur le dos, il avait son coéquipier qui roulait, il est descendu à la voiture chercher des bidons pour les apporter à son coéquipier. Non mais il charrie. Les autres étaient roue dans roue. Les autres étaient roue dans roue. Lui, il est descendu chercher des bidons pour son copain. Il lui a même pas demandé de ralentir, hein, parce qu'il aurait pu à la limite dire à son coéquipier.
Ralenti, j'arrive.
Je pense que
Sivakov met un ton en dessous, je vais te chercher des bidons, je reviens. Non, il a rien demandé. Il est descendu et il est passé à côté des autres et TGV pour revenir devant. Charrie.
En fait, il ridiculise tout le monde.
Charrie, là, il est en train d'enfoncer le clou dans la tête de Vingegaard. Regardez Vingegaard, lui, depuis Paris-Nice, il était tombé, le pauvre. Il est parti en stage. Il a été avec les ours pendant 3 mois, en altitude. Il ressort de l'altitude avec des convictions et avec la sensation du travail bien fait.
Il a trouvé Christophe Dauphiné. Parmi les ours.
Il l'a croisé, il était là-bas aussi en pèlerinage. Et là, l'autre, il arrive sur le Dauphiné, il se dit, là, je vais être au match. Mais il l'a tué. Il l'a tué. Enfin, pour moi, mentalement, sorti de ce dos. Mais regardez la tête de ce pauvre Vingegaard hier à l'arrivée. Il l'a laminé. Alors, donc, ça peut bouger.
Donc,
ça peut changer.
Est-ce que Vingegaard a vraiment raison aujourd'hui de ne se concentrer
mais que sur le Tour? Il ne peut pas faire autre chose.
On poursuit la discussion sur le vélo. On parlera aussi de Romain Bardet. C'est quand même sa dernière. Aujourd'hui, la dernière course de sa carrière. C'était passionnant de vous écouter sur Pogacar, Vingegaard. On va vibrer tout de même pour le Tour de France. On espère vibrer le plus longtemps possible, forcément. Allez, à tout de suite sur RMC.
10, 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque.
Quotidien, prenez les transports en commun.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marc Madiot, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux. À partir de 11h, nous serons en direct de Montpellier pour les championnats de France de natation, des championnats de France sans Léon Marchand. Est-ce que la natation peut réussir à être sexy sans lui? On se posera la question et évidemment on prendra toutes les dernières informations avec Julien Richard. Mais on reste sur le cyclisme. Alors il s'est offert un dernier frisson hier pour l'avant-dernière étape de sa carrière. Romain Bardet est parti seul en tête à 60 km de l'arrivée. Bon, évidemment, il a été repris par Tadej Pogacar, on en parlait il y a quelques instants. L'un des plus grands coureurs cyclistes français de ces 20 dernières années va tirer sa révérence aujourd'hui à l'issue de la dernière étape du Dauphiné. Une longévité incroyable, 14 saisons au plus haut niveau. Un palmarès gigantesque pour un Français, faut tout de même le rappeler. 4 étapes du Tour, une étape du Tour d'Espagne, 2e du Tour de France en 2016, 3e du Tour de France en 2017, maillot jaune du durant une étape en 2024. Mais il reste tout de même toujours un petit goût amer en repensant à sa carrière. Son papa, Philippe Bardet, hier, à la veille de la retraite de son fils, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Romain ne surprendra jusqu'au dernier jour. Il peut être fier de son parcours jusqu'au dernier jour. Voilà, ça résume tout en fait. Je suis vraiment admiratif. Je suis quand même soulagé qu'il arrête parce que bon, il y a un temps pour tout. Il a 34 ans et demi, donc il a fait une très longue carrière, une très belle carrière. La plupart des coureurs de sa génération ont déjà arrêté, donc ça a été courageux de sa part de rempiler pour une demi-saison, de repréparer un Giro. Malheureusement, la pièce n'est pas tombée du bon côté. Il a fait deuxième pour la quatrième fois. Mais bon, l'essentiel est dans les tentatives et c'est formidable.
L'essentiel dans les tentatives, c'est le discours du papa, évidemment, fier de son fils, et on le comprend. Mais tout de même, vous là, Romain Bardet, est-ce qu'il y a un petit regret là ? Est-ce qu'il y a des regrets ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Non.
Marc Madiot ?
Non plus.
Sarah Pitkowski ?
Oh, je me permettrai pas.
Pascal Duprat ?
Non.
Attendez, personne n'a des regrets, les amis ?
Non.
Ah non ?
Non, je pense qu'il a...
Non.
Non, il a fait...
Il a tiré la quintessence de...
Ouais, ça. Il a fait une belle carrière, bah, qui a marqué carrière, son époque. Bon, oui, oui. Il a été performant à une époque où il n'était pas forcément évident de l'être pour un coureur français dans une équipe française. Et donc, il a réouvert des portes qui étaient totalement fermées pendant une longue période. Donc, il a redonné...
C'est l'aide de noblesse aux équipes françaises.
C'est l'aide de noblesse aux équipes françaises, à l'image d'un Pinot chez nous. Oui. C'était la même chose, parce qu'on était. Il faut quand même se rappeler. Faut quand même, dans ce sport, il faut quand même avoir un peu de mémoire. Les équipes françaises et les coureurs français ont pendant des années et des années été traités de ringards. Les équipes françaises étaient nulles et mauvaises. Pour certains, les coureurs français ne savaient pas s'entraîner, etc., etc., etc. Et moi, je trouve que des garçons comme Bardet et Pinot, il y a quelque temps, ont réouvert des perspectives.
Tu rajoutes à la Philippe au truc.
Voilà, et ont réouvert des perspectives au cyclisme français. Donc, rien que pour ça, on doit lui dire merci. Et il n'y a pas de regret, quoi. Il a réouvert des portes. Il lui manquait un petit quelque chose comme à Pinot pour gagner le Tour. C'est la vie, c'est le sport. Et merci à lui, quoi. Merci.
Et dommage qu'on n'ait pas pu gérer les gènes, parce qu'on dit que les jambes de Pinot et la tête de Bardet auraient permis d'avoir un Français vainqueur du Tour. Je ne sais pas ce qu'on pense.
Mais ça, c'est la vie.
C'est vrai que les deux garçons qu'on a souvent opposés dans l'espoir d'en faire des Anquetil Poulidor.
Mais c'est des personnalités différentes.
Mais c'est des personnalités complètement différentes. Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé les modeler tous les deux et arriver à faire le coureur parfait. Le coureur parfait.
C'est deuxième en 2016 et troisième en 2017.
Moins de capacité naturelle, moins gros moteur par exemple que celui de Thibaut Pinot. Mais qu'il a tiré la quintessence de tout ça. Il a travaillé sur les petits détails. Ça a été l'un des premiers coureurs français à bosser sur l'alimentation, sur les trucs. Ce mec-là a été pro jusqu'au bout des ongles durant toute sa carrière. Respect. Franchement, respect total. L'année dernière, son dernier Tour de France, première étape en Italie, il va chercher le maillot jaune. Celui qui rêvait d'avoir durant toute sa carrière, il va le chercher à la Hargne. Là encore, dans le Tour d'Italie, il lui manque rien pour remporter une victoire dans le Giro. Hier, il est encore à l'attaque. Franchement, on n'a rien à lui reprocher. Il ne nous laisse aucun regret. Il a fait trois du Tour de France. Il est sans doute le coureur français.
C'est le meilleur palmarès français sur les classements généraux du Tour de France.
Fait deuxième des championnats du monde. Voilà, il lui manquait un tout petit truc pour être.
Et d'ailleurs, quand tu l'écoutes, quand tu lis ses interviews, lui-même dit qu'il a aucun regret, quoi, qu'il a donné le maximum. Moi, j'ai le sentiment, Marc, que ce coureur-là, il a vraiment fait le métier. Il était exemplaire, professionnel dans tout ce qu'il a accompli.
Exactement.
Et je dirais même que de quitter à un moment donné AG2R, ça lui a aussi été profitable. Et voilà, il a tout vu du cyclisme professionnel et surtout, il a une carrière longue de 14 ans, donc zéro regret.
Non, mais zéro regret. J'entends ce que vous me dites. Évidemment, un grand bravo pour sa carrière. Mais Romain Bardet a toujours été dans l'ombre, et c'est pas à toi que je vais apprendre ça, Marc, dans l'ombre médiatique d'un Thibaut Pinot, du fait de sa personnalité. Mais du fait de sa personnalité, mais tout de même, quand on voit sa carrière, il aurait pu être une star du cyclisme français. Deuxième du Tour de France.
Je vais te donner un exemple. Vous vous souvenez du virage Pinot il y a 2 ans? Cette folie complètement dingue quand il était sur ses terres. L'année dernière, les fans de Bardet ont voulu faire un virage Bardet. Mais celui-ci a dit non, j'en veux pas, les gars. J'en veux pas. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de cette
Pinot,
folie.
Pinot, on voulait pas spécialement
mais,
non plus.
Non, mais il a laissé faire Thibaut. Ouais. Et puis il a tous ses potes qui ont vraiment poussé. Et d'ailleurs, les supporters de Pinot ne sont pas du tout les mêmes que les supporters de Bardet. Les supporters de Pinot, c'est des ultras d'un club de foot. Ils sont pareils d'ailleurs.
Je vois Marc Bardet aller mais Bardet, dans le COP du PSG jamais, comme le fait Pinot aujourd'hui.
C'est des personnalités à l'opposé total, complètement différentes. Et c'est pour ça qu'on.
C'est un garçon brillant, Bardet. Ah bah, quand tu as l'occasion d'échanger avec lui, c'est quelqu'un de brillant.
Bien sûr.
Donc en fait on n'a pas perdu mais en tout cas ils arrêtent leur carrière, donc on a Thibaut Pinot, on a Romain Bardet, il nous reste Julien Alaphilippe.
Oui,
je vais faire une petite comparaison. C'est comme le trio et les quatre mousquetaires qu'on avait dans le tennis, c'est-à-dire que on est obligé de reconnaître qu'ils ont eu des superbes carrières et pourtant on envisageait qu'ils aient cherché le Graal. C'est un petit peu la même chose et ils s'en vont un petit peu au même moment.
Le cyclisme français sont vraiment sur des trajectoires similaire. Le dernier grand vainqueur français, c'est Yannick Noah en 83. Le dernier grand vainqueur français du Tour, c'est Bernard Hinault en 85. Il y a 2 ans d'écart. Depuis 40 ans, on attend dans les deux disciplines.
Ouais.
Et on a eu des espoirs. Tu as raison, les mousquetaires, les Tsonga, les Gasquet, tout ça. C'est l'équivalent des Bardet, des Pinot. C'est l'équivalent aussi de Vauclair un peu plus tôt. Voilà. On a eu de très beaux champions dans les deux disciplines qui nous ont fait rêver pendant des années. Mais il aura à tous manqué un petit quelque chose pour être les plus grands, pour être l'équivalent des Pogacar, des Sinner et des Alcaraz.
Alors c'est qui Romain Bardet? C'est Gilles Simon dans la carrière des mousquetaires? Plutôt discret, toujours là, embêtant à jouer.
Il a un palmarès.
Il était 4e mondial, Gilles Simon.
Ouais.
On a oublié, mais il était 4e mondial. D'accord. Oui, c'est-à-dire que c'est pas l'exubérance. C'est peut-être entre Richard Gasquet et Gilles Simon, tu vois. Mais c'est pas l'exubérance d'un Gaël Monfils. Mais
Thibaut Pinot, c'est qui?
Expressif d'un Joe Wilfried Tsonga. Non, c'est un mélange entre les deux.
Pinot, moi, c'est Gasquet pour moi.
Oh, d'accord. En mieux.
Pinot,
quand même.
C'est Gasquet.
En mieux. Attends, on adore Richard Gasquet dans cette émission.
Bien,
c'est un styliste. Je veux dire, c'est un mec à la classe.
Oui,
Gasquet, pour moi, c'est le mec qui a
la classe avec ce revers extraordinaire. Et vous faites quoi d'Alaphilippe? Ce serait qui Alaphilippe? C'est Gaël ou c'est Joe?
Ah, c'est Joe Wilfried Tsonga. C'est celui qui a le plus gagné.
C'est Gaël parce qu'il est exubérant, il fait le show, les gens l'adorent.
C'est le show avant tout. Il le fait pour le public. Alaphilippe, il pédale aussi pour le public.
Moi, je voudrais vous demander quand même, parce que je vous propose ce débat, parce que je trouve qu'avec Romain Bardet, on a toujours été un peu injuste avec lui. Et même dans les émissions, je dois bien le dire, parce que Romain Bardet, il faisait pas forcément vendre, on en a pas énormément parlé, alors qu'il a une carrière absolument magnifique.
Qu'est-ce qui lui a manqué?
Il aurait fallu qu'il gagne quoi pour qu'il passe le cap
Thibaut
Pinot? C'est même pas une question de sport.
C'est une histoire d'attitude, de personnalité. Pour moi, de ce que je connais de Bardet, c'est quelqu'un de posé, de calme, de réfléchi et qui est dans l'analyse. Et quand tu es face à ce type de sportif, tu n'embarques pas les foules. Ce qu'on a besoin, c'est de la Pinot. Il cherchait pas à embringuer les foules, mais le rictus, la grimace de Pinot,
il lui a peut-être
façon de se lâcher, de tout montrer. C'était facile.
Il était plus expansif. Et donc, quand on est expansif, naturellement, on communie et on partage.
Mais lui a peut-être manqué aussi derrière lui un Marc Madiot capable de transmettre sa folie en tapant sur la voiture.
Je suis pas certain que
tu l'aurais géré de la même manière.
Ma folie aurait peut-être eu du mal à passer avec lui.
C'est pas
non plus un hasard que je me sois retrouvé avec Pinot et que Bardet avec Vincent.
Il est plus cérébral en fait, Romain Bardet, donc plus réfléchi, plus posé.
Il est plus dans l'analyse.
Oui. Ouais, donc forcément, ça met une barrière. C'est-à-dire que quand tu lui poses des questions, il va pas te sortir des adjectifs et des émotions de manière pléthorique. En fait, et effectivement, ce genre de profil, il faut être connaisseur pour apprécier leur qualité. Il faut être connaisseur pour apprécier leur palmarès. Et donc, si tu
parcours sa carrière, c'est quand même exceptionnel.
Bien sûr.
Il n'y a pas besoin d'être connaisseur pour voir que c'est exceptionnel. Moi, j'ai l'impression que c'est le travail. poussé à l'extrême, mmh, et que Pinot, c'est le talent. Mais bon, peut-être que je dis une connerie quand je dis ça. Mais
il y avait aussi le travail pour Pinot quand même.
Mais ouais, bien sûr, bien sûr. Mais si tu m'avais posé la question, si tu m'avais posé la question concernant Pinot, je t'aurais dit regret. J'ai des regrets qu'il n'ait pas fait mieux. Alors que j'en ai pas pour Bardet.
Des regrets, comme je sais pas si vous en souvenez, de cette bagarre entre Pinot et Bardet dans la montée de la Croix-Neuve à Mende. Oui. Bardet attaque, Pinot le rattrape au sommet. On a le duel entre les deux jeunes Français. Ça, et il y a un abruti d'anglais qui les passe devant et qui va les battre à l'arrivée. Mais on était complètement au fond du trou, ce genre-là.
On oublie un peu avec le temps, mais il se tirait une grosse bourre.
Bien sûr, bien sûr.
Ah bah oui, aujourd'hui,
alors, on disait, on est copains.
On est copains. Non.
Ils n'étaient pas copains.
Ils étaient tellement différents.
Ils n'étaient pas copains, mais valait mieux que ce soit eux ou un autre plutôt que lui.
Ok, on a bien compris le sentiment. Je vous propose d'écouter Romain Bardet qui était avec nous il y a quelques jours sur RMC. On lui a justement posé la question de savoir s'il avait des regrets, lui.
J'ai pas gagné sur les trois grands tours. J'aurais aimé. C'est pour ça que j'ai prolongé une saison de plus. C'était le but de ce Giro-là. Peu importe, ça c'est des lignes de palmarès. Et forcément, l'appétit vient en mangeant. On veut toujours faire plus. Mais je crois que ça fait 10 ans maintenant que j'ai eu ma première grande victoire sur un vélo dans le peloton professionnel et sur le critérium du Dauphiné, dans un style de course qui me plaisait, en me portant à l'attaque, en prenant des risques en descente et en résistant face à des coureurs qui m'étaient certainement supérieurs dans la dernière montée. Donc je crois que c'est un petit peu à l'image de ma carrière et d'avoir essayé de toujours donner le maximum, même s'il y avait souvent, voire très souvent, des cours intrinsèquement supérieurs à moi.
Et tu vois, cette interview, elle résume tout Bardet.
Tout.
Ouais. Il est posé, pondéré. Il est calme, il est lucide, mais il ne te met pas la chair de poule.
Ouais.
Voilà.
Ah ouais. Bravo à Romain Bardet, et c'est aussi
en fait,
pour ça.
Tu l'as cassé, Marc, là, en
non,
fait.
On a compris.
Pas du tout.
On a compris. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'avait pas cette résonance médiatique. Il faut bien le dire, à l'inverse
immense personne qui gagne à être connu et admiration.
Le jour où il gagne au BT, quand même, à Saint-Gervais, moi, il m'a filé les poils, quand même.
Bon, en tout cas, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a fait le morphing du coureur parfait, coureur cycliste, avec la tête de Bardet, les jambes de Pinot. Ça me fait penser aux Inconnus, le film Les Trois Frères, là, où il parlait des jambes de Kim Basinger, les hanches de Demi Moore, les seins de...
Et la préparation de Pogacar.
Les yeux de Sharon Stone et le poing de Schwarzenegger dans ta gueule. Ça m'a fait penser à ça, c'est sublime. 10h47, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Qui a gagné? Là, je crois que c'est Pascal avec du foot, avec son Pogba. À tout de suite.
Ouais.
Les jambes de Sidney Crawford, les hanches de Kim Basinger, les seins de Demi Moore.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
De retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi avec Marc Madio, Pascal Dupras, Sarah Pitkovski, Christophe Cessieux. Ce matin à 11h, on parlera de natation, on prendra la direction de Montpellier avec le début des championnats de France. La natation peut-elle être sexy sans le roi Léon Marchand, qui est exempté de cet exercice avant les mondiaux fin juillet à Singapour. Et puis on parlera également du 15 de France, les amis, car aujourd'hui on devrait avoir la première liste pour cette tournée en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il faut vraiment attendre quelque chose de cette tournée? Je vous poserai la question. Mais tout de suite, mais GG, c'est à vous de jouer.
RMC, les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin. La dernière place, malheureusement, pour Marc Madio, avec les pilotes Formule 1 qui ne sont pas au Mans. Et ça, c'est ton grand regret. 12% pour joli sujet.
C'est dommage.
Bah oui, c'est dommage.
Très dommage.
Tu reviendras plus tard.
Oui,
avec un autre sujet. Marco. Les Hansen Games en 2026, 19%, troisième place pour toi, Sarah Pitkovski.
Je crois que je suis vraiment une incomprise dans ces contre-attaques.
Mais non, mais il faut que tu fasses du foot, Sarah.
Je voulais prendre Paul Pogba, il est allé plus vite que moi,
pour
Pascal.
Il faut faire du foot.
Ouais,
voilà, c'est tout.
Non, c'est pas tout le temps le cas. La troisième place pour Hadjar, qui n'est pas encore prêt, il l'a dit cette semaine, pour rejoindre l'écurie Red Bull. Christophe Cessieux, 24% pour toi. Une belle deuxième place. T'as gagné hier.
J'ai gagné.
Monsieur, une belle deuxième place. 45%, un véritable plébiscite. Les autres, les internautes.
Pour Pogba à Monaco.
Veulent entendre Pascal Dupraz.
Qui revient en suspension.
Paul Pogba à Monaco. On y va, tu as gagné. On rappelle juste l'information. Évidemment, Monaco a envoyé une offre de contrat à Paul Pogba. Paul Pogba n'a pas encore dit oui, mais on sent que les deux positions semblent se rapprocher et peut-être que cette semaine, la semaine prochaine, on aura une officialisation de Paul Pogba à Monaco. Pascal, on t'écoute.
Oui, félicitations à mes amis pour cette contre-attaque là, et pour vos sujets. Ouais. Bon, malheureusement, ça n'arrive pas souvent. Je remporte la contre-attaque alors qu'il y a Christophe. Tant il a des suiveurs qui votent pour lui.
Donc je suis
très heureux de l'avoir remporté. Non, je voudrais simplement parler de Pogba parce que je vois ceci comme un appel du destin en fait. Pogba, à l'automne 2023, il est convaincu de dopage, contrôlé positif à la testostérone. Il est suspendu dans un premier temps 4 ans. Sa suspension est ramenée à 18 mois. Et puis il se trouve que depuis mars 2025, voilà qu'il est libre, défait de son contrat à la Juventus de Turin. Il est libre de s'engager où il le souhaite. Alors bien sûr, on se prend à rêver quand on est français, quand on connaît la qualité de ce joueur-là. Je me souviens de la Coupe du Monde 2018 où ça a été un des hommes forts de Deschamps. Et je me dis, si Pogba pouvait signer en France, à un moment donné, Marseille s'était mis sur les rangs. Apparemment, ça n'est pas sa destination. Et on subodore qu'il pourrait peut-être signer à Monaco. J'espère qu'il va débuter en Ligue 1, donc à 32 ans, à Monaco, qui va jouer la Champions League, ce qui ne gâte rien. Et puis surtout, dans mes rêves les plus fous, je le vois être sélectionné par Deschamps, parce que Deschamps ne l'a pas oublié, Deschamps l'a dans un coin de sa tête. Je le vois être sélectionné pour la Coupe du Monde 2026. Et pour la DER de Deschamps, je le vois avec Deschamps soulever la Coupe du Monde. Voilà ce que j'espère. Je suis certain que vous êtes d'accord avec moi. Il reste malgré tout une question après sa suspension, mais aussi après ses nombreuses blessures, parce que avant sa suspension, il a eu des blessures. Après ses déboires, parce qu'il a eu des déboires judiciaires. On va pas revenir là-dessus, mais vous savez tous qu'il a eu quelques problèmes avec sa famille. Donc, est-ce qu'il est capable de retrouver son meilleur niveau? Voilà, la question reste entière et je vous la pose, les GG.
Ok, qui veut réagir, Marc?
Pour répondre à cette question, il faudrait connaître l'activité et la vie qu'a eu Paul Pogba pendant tous ces longs mois de suspension.
Et même ces années, on est à 3 ans, 3 ans et demi.
Mais il est clair que s'il a été sportif dans son attitude et qu'il s'est entretenu et entraîné et qu'il a vécu
en fonction de son retour,
c'est envisageable. Mais s'il a passé plus de temps à Ibiza, ça va quand même être compliqué.
Non, il s'est entretenu. Ce qui est bien, c'est qu'il retrouve la Ligue 1. Alors à un moment donné, un temps, les supporters marseillais ont rêvé.
Pas qu'il retrouve.
Qu'il la découvre.
Parce qu'il
n'a jamais joué en Ligue 1. La France, si vous voulez.
Ouais, oui, mais voilà. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est d'avoir une chance de finir ta carrière correctement en tant que sportif de haut niveau et footballeur, et de le faire en France. Voilà. On l'a peu vu jouer en France. Il était au Havre plus jeune. Il a tout de suite été transféré. Donc de voir Paul Pogba jouer dans le championnat français pour son retour, moi, c'est ce que j'aimerais beaucoup voir.
Pour l'image de la Ligue 1, les droits télé, on sait que c'est compliqué.
Un petit peu comme Rabiot qui vient jouer à Marseille, on a besoin peut-être d'affiches quand même.
Je voudrais pas être l'emmerdeur de service.
Vas-y.
Mais là, on est en train de parler de Paul Pogba avec mansuétude, avec délicatesse.
Mm-hmm. Ou tu vas faire l'emmerdeur de service.
Imaginez que Paul Pogba soit coureur cycliste. Est-ce que nous aurions les mêmes mots que nous utilisons en ce moment?
Oui, parce qu'en fait.
On revient à notre débat.
Parce que dans le débat d'avant, si t'aimes mieux Pogba, il te laisse pas indifférent.
Oui.
Par son look, par le lead. Quand on le voit en équipe de France, moi je me souviens à la Coupe du Monde, j'étais un de ceux qui disait il devrait pas jouer. Je me rappelle à la Coupe du Monde en Russie parce qu'il avait déjà quelques problèmes de blessures et parce que ses performances n'étaient pas extraordinaires. Je me disais Deschamps, il insiste avec Pogba, il devrait pas insister. J'ai eu tort une nouvelle fois et Pogba, il a été majeur dans l'obtention du titre en Russie. Donc c'est un joueur qui te laisse pas insensible. C'est un joueur de grand talent. Et c'est pas pour rien
qu'il a un impact sur une équipe, qu'elle soit sur le terrain ou peut-être dans le vestiaire. Et avec ce qu'il a vécu ces trois dernières années, il s'est peut-être bonifié. Enfin, en tout cas, il y a eu forcément une incidence sur lui en tant qu'homme. Bon, enfin, moi, je serais ravie qu'il signe, en tout cas, qu'il joue dans le championnat français.
Bon, bah, sachez en tout cas que vous pouvez retrouver toutes les dernières informations concernant ce dossier sur rmcsport.fr. Paul Pogba discute avec l'AS Monaco et espère boucler rapidement ce dossier. Donc, évidemment, on vous tiendra au courant sur RMC. Merci, Pascal, et bravo pour cette proposition. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Léon Marchand, la natation peut-elle être sexy sans lui? On parlera également du 15 de France. Et alors, j'ai un débat caché qui pourrait même mériter autre chose. Mais qui va vous plaire. Je garderai beaucoup de temps pour le débat caché parce que je suis sûr que vous allez tomber dedans. Il est tombé. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.